Cette semaine, à Québécois, on fume du pot. Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 40 de Québécois. Bonjour Charles.
Salut Gabriel.
Salut. Puis, on en avait mentionné un peu la semaine passée, le Québec est rendu pogné avec une un grand cas de Reefer Madness. ça a de l'air populaire, la SQDC, hein?
Les files d'attente étaient quasiment aussi grosses que celles au IKEA de Québec.
Incroyable. Incroyable. Puis, tu sais, il y a peut-être un qui... On passera de commentaires sur des files d'attente du IKEA. Je pense que Infoman en s'est déjà parlé. Fait que c'est ça, le Québec semble, on pourrait dire, plus ou moins prêt pour ça, si on regarde la popularité du cannabis. Et, la popularité de la SQDC, en fait. En fait, c'est une popularité un peu forcée, un marché qu'on a créé un autre cartel au Québec. Cette fois-ci, il y a un cartel gouvernemental. Je pense que vous savez déjà qu'est-ce qu'on pense des cartels à Québec, quoi. On n'est pas des grands fans. On est plus des fans du libre-marché. On a vu des pénuries de stock. On a vu déjà aussi la législation qui est provinciale qui est déjà sur la veille d'avoir des contestations en cours, notamment sur le droit de pousser des plantes ou pas dans ton chez-toi. Aussi, là, on a la CAQ qui parle déjà de monter l'âge à 21 ans. Tout ça en deux semaines.
Le cycle de nouvelles là-dessus a été très rapide. Là. On n'avait pas vraiment le temps de s'arrêter pour réfléchir. Il y avait déjà de quoi de nouveau qui nous rentrait dedans.
Ouais.
Ça devient difficile parce que on veut pouvoir prendre le temps de réfléchir. C'est une nouveauté, mais à chaque jour, il y a une nouveauté qui arrive.
Oui, mais c'est un peu ça qui me surprend. Okay? Parce que si on regarde le dernier cycle électoral, la CAQ, ils n'ont presque pas parlé du cannabis. Ils n'ont presque pas parlé non plus de toute l'histoire sur les signes religieux. Ils en ont parlé un peu, mais c'était pas ça, selon moi, qui étaient les points importants durant la campagne. On a surtout parlé d'économie puis du système de santé. Puis là, maintenant, on a l'air de s'attarder sur le pot. Puis moi, c'est la question que je me pose. C'est-tu vraiment ça la priorité là, pour le Québec? Là? Il n'y aurait pas autre chose de plus important comme la santé, comme l'éducation, comme l'économie, me semble, dans la liste des choses qu'on devrait régler, là. Tu sais, pour paraphraser l'autre, tu sais, parler des vraies affaires, là.
Écoute, c'est pas surprenant que la CAQ ait voulu en dire le moins possible sur à peu près tous les dossiers, un temps soit peu litigieux. Il n'y a même pas voulu venir, tu sais, comme vous le savez, on a eu plusieurs personnes des différents partis sur le podcast au courant du mois de septembre puis du mois d'août. Puis la CAQ est le seul parti à avoir refusé de venir. Donc, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de les entendre beaucoup. Et c'est leur stratégie, la stratégie du meneur, ils en disaient le moins possible. Mais là, ça va être intéressant parce que on va arriver avec un scénario où le Québec va être en phase avec le reste du pays, où la législation va être différente. Par exemple, au Québec, on peut boire de l'alcool à 18 ans, ce qui fait que ça attire beaucoup de jeunes pour qui, dans leur province, l'âge minimum pour consommer de l'alcool, c'est 21. Ouais. Est-ce que les jeunes du Québec vont commencer à aller fumer leurs potes dans les provinces adjacentes? Ça reste à voir, mais il y a quand même quelque chose de préoccupant dans ce scénario-là, parce que c'est quand même important qu'il y ait une forme d'uniformisation du plan législatif là, de ces choses-là, pour pas qu'une personne traverse une frontière imaginaire entre deux provinces, puis soudainement se retrouve dans un cadre réglementaire complètement différent, puis pour lequel il n'est plus capable de savoir, au fond, à quoi il doit se conformer pour être un bon citoyen.
Puis aussi, je pense que c'est complètement absurde de croire qu'en augmentant la limite de l'âge pour fumer le pot à 21 ans, que ça va changer quoi que ce soit. Les gens fumaient du pot, puis si on regarde les statistiques, la majorité, il y avait une grande majorité de la population qui avait au moins essayé le pot au moins une fois dans leur vie. Beaucoup qui fumaient régulièrement. Tout ça avant qu'on légalise le cannabis. Pensez-vous vraiment, là, que si on augmente l'âge à 21 ans, qu'à 18 ans, que tu vas pas fumer du pot? Parce que, ah non, non, il faut attendre à 21 ans. Voyons donc. Tout le monde le sait, là. Le monde va fumer du pot pareil. Tout comme il y a plein de petits jeunes qui boivent de l'alcool avant 18 ans. On le sait, là. Les histoires, tout le monde en a, là, par rapport à ça. Faudrait arrêter. On dirait que on vit dans un monde de licornes et de fer à croire et de rêves avec des... On pourrait-tu juste faire face à la réalité, nous, puis regarder vraiment comment les choses sont au jour le jour, à la place de se faire aller la margoulette à la télé pour bien paraître, puis de dire n'importe quoi, là. Changer l'âge de 18 à 21 ans, là, ça va rien faire d'autre à part que d'alimenter le marché noir, à part que de continuer à donner de l'argent au crime organisé, qui, si on se fie à ce qui a été raconté par les libéraux fédéraux, qui était une des raisons principales pour lesquelles on voulait décriminaliser la marijuana, justement pour contrer le marché noir puis le crime organisé. Fait que...
C'est surtout qu'on a échoué l'expérience de la prohibition de l'alcool.
Clairement.
On devrait retirer des leçons de tout ça. Et au final, c'est juste le gouvernement qui cherche à contrôler ce que vous pouvez ou pouvez pas faire de votre vie. C'est... Quelqu'un veut prendre du pot, ça s'arrête là. Quelqu'un qui veut en consommer va en trouver. S'il y a une demande, il va avoir une offre. C'est quasiment une loi universelle de l'expérience humaine.
Ouais.
Il y a toujours des gens prêts à répondre à un besoin si les gens sont prêts à payer pour. Et force est d'admettre que les gens sont prêts à payer pour. Parce que, mettons, là, présentement, il y a des ruptures de stock à la SQDC, là, la Société québécoise du cannabis. Moi, ce que j'ai entendu de connaissances proches, les dealers privés, là, ils ont pas de misère à s'approvisionner.
Ben, c'est clair. C'est clair parce qu'ils sont pas limités à 8 fournisseurs. C'est OK, pour tout le Québec, on a 8 fournisseurs de potes. Come on, là, on est 8 millions. Ça fait un fournisseur par million de personnes. Ça marche pas, là. C'est tellement simple.
C'est que les gouvernements sont pas bons pour gérer. Ils mettent un entonnoir sur la production, sur la distribution, sur la revente, puis ils espèrent que ce marché-là va opérer de façon normale et profitable. Ça arrivera pas, guys, vous allez être déficitaire. Là, en plus, il y a la FTQ qui a syndiqué tous les employés le jour 2 des activités de l'entreprise.
Ouais, ça, c'est bon pour tout le monde, ça.
Ils n'ont même pas eu l'occasion de négocier avec leur employeur des conditions de travail qui leur convenaient, que les syndicats étaient déjà là-dedans pour passer à la caisse.
Ouais, incroyable. Mais ça, c'est le Québec. Je regrette, mais tu sais, c'est tellement typique du Québec. Moi, si j'avais eu à placer un pari sur combien de temps ça allait leur prendre avant de rentrer le syndicat là-dedans, là, j'aurais probablement mis une ou deux journées. Parce que connaissant comment ça fonctionne ici, c'est pas une énorme surprise.
Moi, j'ai hâte de voir. Ce qui avait été anticipé au courant de l'été, c'est que la SQDC serait déficitaire pour les premières années d'exploitation. Le genre de voir, ça va se matérialiser dans les faits, mais ce serait quand même extraordinaire que le modèle québécois montre à quel point il est inefficace en étant déficitaire en vendant du pot.
Mais surtout que tu sais qu'on sait que dans la première journée, il y a eu 45 000 commandes. Tu sais, ça me semble que c'est beaucoup. Là, je te parle en ligne, car il y a eu quelque chose comme 120 quelques mille commandes dans la première semaine. C'est faut vraiment être mal géré pour créer un déficit avec ça, là. Je sais bien, il n'y a pas de marché garanti en économie. Tu peux pas dire, ça se vend tout seul. Mais le pot, je pense que c'est vraiment le pot et l'alcool, c'est comme deux cas où on peut presque dire ça se vend tout seul. Pas besoin d'énormément de marketing pour que le monde aille s'acheter une bière ou leur joint. Mais
là, mais à travers tout ça, au moins. C'est fait. Au moins, c'est légal. Il va falloir probablement corriger les éléments en cours de chemin. Là, tu mentionnais qu'il y avait plusieurs groupes là, qui comptaient contester la législation en place devant les tribunaux. Puis je pense que plusieurs de leurs réserves sont justifiées, par exemple, sur les tests de dépistage, comment ça doit être fait pour être conforme aux chartes puis aux lois du travail. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être peaufinés parce que, évidemment, notre classe dirigeante, c'est pas vraiment ce qu'elle fait. C'est beaucoup d'improvisation, mais ça donne ce que ça donne. Mais au moins, c'est légal. C'est quand tu as à peu près. Si on regardait les derniers chiffres de StatCan qui demandaient aux gens, même si c'était illégal, s'ils consommaient du pot, même sachant que c'est illégal, les gens qui ont répondu le faisaient de façon anonyme. Selon la province, là, ça allait entre 15 et même 30 % dans certains endroits, là, des gens qui consommaient sur une base régulière de la marijuana.
Moi, je pense que c'est très bas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus que ça.
Ah mais c'est ça, mais c'est quand ils ont posé la question
Ouais, c'est
durant
ça,
l'été,
là.
c'était encore illégal.
Puis
Là, on va avoir plus de vrais chiffres.
ouais. Puis là, ce qui va arriver, là, quand le StatCan va sortir leur prochain recensement, le pourcentage va être plus haut. Puis là, les conservateurs vont nous dire, ben, vous avez vu, le monde fume plus maintenant. T'sais, sans... Ils vont utiliser ça comme justification, en fait, pour dire que la légalisation du pot a créé plus de fumeurs. Mais moi, je pense que c'est pas ça qui se passe. Moi, quand on regarde autour de nous, là, y a-tu vraiment plus de monde qui fume du pot à la date? Moi, je pense pas. J'ai pas vu dans mon entourage une augmentation faramineuse de fumage de pot. Surtout qu'on n'a pas le droit d'en fumer nulle part, là. Ça, c'est un autre problème que je pense qu'il va se régler probablement par la Cour ou probablement par les gens qui vont faire de la pression envers le gouvernement. C'est quand même très difficile de se trouver un endroit pour fumer du pot. Hein? Au départ, l'idée, c'est que ça allait être légal partout où tu avais le droit de fumer une cigarette, tu devrais être capable de fumer du pot, qui, selon moi, est un peu logique. Mais là, on commence à avoir une espèce de mosaïque à travers le pays où tu as un village qui interdit le pot partout, même certains arrondissements à Montréal qui veulent interdire le pot partout sauf dans ta maison ou dans ton endroit privé. Mais là, le problème avec ça, c'est que là qu'on a les propriétaires qui veulent mettre dans leur beau d'interdire le pot à l'intérieur des murs des logements des gens, comme qu'ils font des fois avec la cigarette. Fait que là, on se demande, tu sais, jusqu'à quel point c'est vraiment légal si t'as pas le droit d'en fumer nulle part. Tu sais, c'est un non-sens, là. On va limiter les gens. Moi, je pense que c'est pas fini, cette affaire-là. J'ai vraiment l'impression que à un moment donné, il va falloir peut-être... Pas changer, mais peut-être, je sais pas, clarifier exactement jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Je sais que pertinemment, y a des compagnies, t'sais, qui ont été très claires dans leur politique, là, t'sais, qui se sont garrochées à émettre des avis à leurs employés le lendemain ou le jour même que la légalisation du cannabis a commencé. Il y a des exemples où ils disent carrément, vous n'avez pas le droit de fumer du pot ou consommer du cannabis sous toute forme sur tout l'ensemble de la propriété de l'entreprise, même si c'est pour des raisons médicales et que vous avez une prescription. Genre d'affaires que je trouve drôle parce que je me dis ça va finir par se faire challenger en cours, c'est garanti à quelqu'un qui va se faire mettre dehors puis que ça va sortir par des poursuites. C'est pas fini là. Moi je pense que la façon que la légalisation a été faite, puis c'est dommage parce qu'on en a parlé pendant 3 ans depuis que Trudeau a été élu, c'était une de ses cheveux, un de ses cheval de bataille durant sa campagne électorale. C'est une des promesses du gouvernement libéral qui a été réussie. Mais là, les provinces, je sais pas qu'est-ce qui. Puis ça, c'est pas juste au Québec, là, c'est vraiment plusieurs provinces qui se retrouvent comme ça. C'est comme si, rendu au 17 octobre, ils étaient comme tout surpris que la légalisation avait passé, puis ils étaient pas prêts. Ils ont eu 3 ans pour se préparer. sais, puis veut, veut pas, ils ont été impliqués, les gens ont été consultés. La législation qui a été poussée par les libéraux a été disponible pour tout le monde à lire. Je comprends pas, là. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment on pouvait arriver au 17 octobre et être aussi mal organisé après 3 ans d'avertissement, puis que c'est quoi, ça faisait quand même plusieurs mois là, que la loi avait été votée et acceptée. Puis la loi, écoute, a été en travail pendant beaucoup plus longtemps que ça. Pas d'excuse, là, selon moi, je comprends pas. Fait que moi, je pense que c'est pas fini, cette affaire-là. Oui, OK, fine, c'est légal, mais il va y avoir encore bien de la job à faire avant qu'on se retrouve avec un cadre qui a de l'allure. Puis c'est comme tu disais, en ce moment, d'une juridiction à l'autre, tu fais quoi, là? L'Ontario, ça ressemble pas au Nouveau-Brunswick, ça ressemble pas au Québec, ça ressemble pas à Terre-Neuve. Déjà qu'au Québec, on a vraiment créé un cartel. Est-ce qu'on veut garder ça? Je sais pas, là. Je sais vraiment pas.
Ben, c'est un petit peu ça. Puis, moi, j'aime ça regarder ce qui se fait ailleurs pour se comparer. Puis, d'un point de vue national, le Canada est le deuxième pays à légaliser le cannabis. C'est quand même une réalisation intéressante. On est un peu à l'avant-garde sur ce point-là. Il y avait d'autres pays avant qui l'avaient décriminalisé, mais nous, on a quand même une législation assez extensive pour l'intégrer au même titre que n'importe quel autre produit de consommation, comme le tabac ou encore les vins, alcool, spiritueux et compagnie. Mais à l'échelle provinciale, ce que je trouve intéressant, c'est le modèle d'affaires. Donc, au Québec, ce qu'on a privilégié, c'est une société d'État filiale de la SAQ, gérée par le gouvernement, qui va verser, au fond, une partie de ses profits sous forme de redevance au gouvernement. Puis là, il y avait des gens qui parlaient d'une redevance autour de 5 à 8 milliards par année. J'ai hâte de voir si ça va se matérialiser avec tous les problèmes au niveau de l'approvisionnement.
Ouais, mais
dans les autres provinces, mettons, je regarde du côté de l'Alberta, eux, ils ont privilégié un modèle de licence. C'est-à-dire que faut que tu ailles chercher un permis. Fait que toi, si tu veux vendre du pot, ben, tu vas appliquer au gouvernement. Tu dis, ben oui, je veux vendre du pot, je suis à telle adresse, voici mon nom de compagnie. Je vais prendre telle mesure de sécurité pour m'assurer que les mineurs n'y auront pas accès, pour m'assurer que le stock va être de bonne qualité. Fait que c'est un processus de permis, mais tout que les bars qui se prennent un permis d'alcool, ben les magasins ont des permis de vente de potes. Fait que c'est décentralisé. Hein, ouais. C'est les compagnies qui décident elles-mêmes de leur emplacement en fonction de leur étude de marché. C'est des individus, des entrepreneurs, c'est leur business. C'est ça qu'ils vendent à côté de d'autres produits. Fait qu'ils vendent aussi des accessoires, c'est bon. Un magasin comme les autres, là. C'est décentralisé. Au Québec, on continue à vouloir centraliser tout ce genre d'opérations-là. Ça va être intéressant parce que là, on a, en temps réel, une expérience de nature économique. Qu'est-ce qui va mieux marcher après un an, après 5 ans, après 10 ans? J'ai hâte de voir, mais mon feeling, c'est que les marchés vont davantage se développer dans des endroits décentralisés où il y a plus de compétition. Et j'imagine que ces endroits-là vont aussi attirer d'autres entrepreneurs ou encore carrément des touristes pour du pot. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'échelle mondiale qui fument du pot. Et le Canada est sur la mire de ces touristes-là dire « Ah, ici, il y a une culture du pot, je vais aller en profiter. » Là, ils ont le choix de leur destination. Est-ce qu'ils vont aller à Montréal où c'est restreignant, où c'est l'État qui contrôle la distribution et carrément l'approvisionnement, ou vont aller plutôt du côté de l'Alberta où des entrepreneurs vont peut-être penser à des façons novatrices de commercialiser le produit pour le rendre peut-être... donner une twist un peu différente. C'est une expérience en temps réel. J'ai hâte de voir quelle va être la réponse. Mais mon intuition, c'est que l'Alberta va mieux performer que nous à cet égard-là.
Ouais, ça ne me surprendrait pas. Parce que c'est vraiment... On a vraiment un cadre restrictif au Québec. C'est difficile. Peut-être que c'est... La grande différence, c'est que vraiment maintenant, au lieu d'appeler ton pocheux, tu peux vraiment aller chercher ton pote dans un magasin puis payer avec une carte de débit. Ce qui va être une expérience assez intéressante pour bien des gens. Mais ça reste que encore aujourd'hui, tu peux te faire livrer ton pote par ton pocheux plus vite qu'une pizza à Montréal. Ça n'a rien changé. C'est plate à dire, là, mais si c'est trop restrictif, c'est le marché noir va continuer. Là. Puis ça va être un échec à ce niveau-là. Puis c'est dommage parce que vraiment, c'est l'opportunité qu'on a de vraiment faire un, un peu de tort au crime organisé de cette façon-là, puis on ne va pas le faire. Moi, je te dis, je ne vais pas le faire. Je l'entends dans mon entourage. Les gens dans mon entourage qui sont des habitués du cannabis, puis qui ont déjà leur système d'approvisionnement avec leur pusher du coin, ils vont pas changer. J'ai pas l'impression que le gouvernement a donné assez. C'est surtout que là, même si tu. Moi aujourd'hui, si je voudrais aller m'acheter du pot, ben je peux pas. Il n'y en a plus. Mais qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire? Ils vont appeler leur pusher. C'est aussi simple que ça, là.
C'est ça qui est un petit peu dommage ultimement. C'est que j'aimais beaucoup l'idée de Thomas Mulcair. Si vous vous souvenez, durant la campagne, Trudeau prônait la légalisation. Au final, ça a pris 3 ans. Mulcair disait la décriminalisation, c'est super simple. On peut le faire le lendemain de l'élection. Ouais. On peut juste enlever les articles du code criminel qui disent que c'est criminel d'être en possession simple de pot, puis on passe à autre chose.
Oui, absolument.
Présentement, la légalisation, en réalité, ça a plus été une opportunité, surtout au Québec, de monopoliser le produit. Au lieu d'avoir une bande de criminels qui ont le monopole, on a le gouvernement qui a le monopole. Fait qu'au final, est-ce qu'on est vraiment plus avancé? Oui, un petit peu, mais pas autant qu'on aurait pu l'être. J'aurais préféré qu'on mise davantage sur la liberté des individus de choisir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Le produit est disponible. Qu'il se soit vendu par le gouvernement ou n'importe qui, c'est facile d'accès. Je marchais dans la rue, dans un parc, il y avait un paquet de kids qui avaient clairement toute l'air mineure, 15-16 ans. Et il s'en battait un bon.
Bon, ouais, c'est clair, mais ça, ça changera pas, là. C'était de même quand j'étais jeune. Moi, je me souviens, au secondaire, j'étais un petit peu nerd, là, fait que moi, le pote, j'aurais jamais touché à ça. Mais autour de moi, il y avait plein de monde qui fumait, là. Tu sais, c'était l'alcool, le pote t'envoie, let's go. Moi, j'étais vraiment... J'étais vraiment un bon petit gars, mais je ne touchais pas, là. J'avais tellement peur de ça, parce que mes parents m'avaient rentré toutes sortes d'affaires dans la tête. Mais ça, le pot était pourtant pas légal, puis le monde fumait pareil. Ça changera pas, là. C'est une question d'éducation, c'est une question de... Puis ça, c'est peut-être l'avantage qu'on a maintenant que le pot est légal, c'est que ça va un peu... sortir le pote du y enlever son caractère tu sais underground, tu sais c'est tabou, mais là on a un peu enlevé le tabou. Okay, ce qui va permettre que maintenant, ça va peut-être forcer les parents à en parler avec leurs enfants ou même à l'école. C'est qu'on peut leur donner un cadre éducatif vis-à-vis des drogues, puis d'en parler d'une autre façon. Tu sais que ça va aussi enlever la peur qui pourrait exister autour de ça, l'espèce de reefer madness qui existait dans les années 60. Là. Puis peut-être rendre la conversation un peu plus intelligente là, que qu'est-ce qu'elle était avant. J'ai espoir que ça va générer un peu plus de discussion à ce niveau-là, puis qu'on va être capable de... Puis je sais qu'il y a beaucoup de provinces qui ont inclus ça dans leur stratégie avec la marijuana, c'est d'inclure un volet éducatif pour que les jeunes puissent vraiment comprendre ce que ça implique. Parce que qu'on le veuille ou pas, là maintenant, on le sait, il y a des risques attribués à la marijuana, surtout pour les gens qui sont jeunes, qui sont en phase de développement. Parce que
les moins de 25 ans.
Les moins de 25 ans. Parce que ça c'est un fait. Là, le cerveau humain met énormément de temps à se développer.
D'autres n'y arrivent jamais.
Oui, on voit ça souvent. Mais tu sais, en théorie, le cerveau humain, ça prend jusqu'à à peu près l'âge de 25 ans avant qu'il soit complètement formé. Puis malheureusement, la marijuana peut avoir un effet sur le développement du cerveau, surtout chez les jeunes. Donc, tu sais, je comprends qu'il y a quand même un brin d'inquiétude de ce niveau-là. Moi, je pense que pour affecter le cerveau à ce point-là, ça c'est juste mon opinion, là, je pense qu'il faudrait en fumer en colline du pot pour t'affecter. Il y en a d'autres qui disent que non, juste un joint, puis ça va ruiner ta vie. Je suis pas de ceux-là qui croient ça, là. Mais...
À date, on avait peu d'études sur la
Oui.
question parce que justement, c'était illégal. Là,
Oui.
ça va changer. On va
Ah,
pouvoir finalement commencer à avoir plus de données.
ah oui.
Mais ce qui ressortait des
Moi,
études préliminaires, c'était que les gens qui avaient une prédisposition génétique,
j'ai hâte de
eux, avaient
voir
plus
les
d'effets.
premières études féministes sur le pot.
C'est sûr qu'ils vont trouver une façon de dire
Ah,
qu'ils sont des victimes.
c'est clair, le pot, ça doit opprimer les féministes.
En partant, c'est un symbole phallique, là. En partant. Mais plus sérieusement, j'ai hâte qu'on ait des données probantes là-dessus. Puis si c'est vrai pour le pot, c'est vrai pour toutes les autres
Ben
drogues aussi. C'est le même
oui.
raisonnement.
Ben oui.
Mais juste pour faire un petit wrap de cette pensée-là, c'est toutes les drogues sont faciles à obtenir n'importe où.
Ben oui.
Le flux de circulation des drogues ne va pas vraiment changer. Que ce soit vendu par un monopole gouvernemental ou un monopole du crime organisé.
Ouais.
Puis, moi qui avais espoir que les gens finiraient avec davantage de liberté, finalement, la législation semble être davantage une nouvelle source d'intrusion dans nos
Ouais.
libertés individuelles et puis dans notre vie privée. Parce que là, ce qui commence à ressortir, c'est que. Par exemple, on avait la SQ là, qui donnait un communiqué à l'effet que les gens n'avaient pas le droit de consommer du pot qui n'avait pas été acheté à la SQDC, puis qui devaient conserver leur reçu, leur emballage original pour prouver que le pot qu'ils consommaient était bon. Donc, est-ce qu'on va avoir les forces de l'ordre qui commencent à inspecter d'où vient ton pot, puis que tu dois prouver, quelle va être
Mais
la preuve à fournir pour ça?
ça,
Moi, j'aimerais ça qu'on enlève la dimension guerre. Tu sais, comme
c'est...
l'espèce de quête de la guerre aux potes. J'aimerais qu'on laisse le pote, puis possiblement la dépendance qui est liée à ça, aux infirmières, aux docteurs, aux travailleurs sociaux, aux parents, aux communautés, puis qu'on arrête de diviser la population entre les officiers du gouvernement, la police, puis les civils. C'est complètement contre-productif. Et c'est quelque chose qui me préoccupe énormément pour la suite des choses. Il va y avoir de sérieuses batailles devant les tribunaux qui vont être faites.
Oui.
Puis, je sens que, oui, il y a un pas par en avant, mais on en a fait aussi un par en arrière sur la question des libertés individuelles, parce que remplacer un monopole par un autre monopole, on n'est pas tant plus avancé.
Oui, je pense que c'est pas fini. Puis je pense que les prochaines années, les prochaines 2 à 5 ans, là, ça va être intéressant de voir jusqu'où la Cour suprême va trancher. Parce que moi, je m'attends à voir des cas qui vont se rendre là. Puis le cas de la SQ, c'est un cas qui me chicote un peu parce que, tu sais, au départ, on a une présomption d'innocence. T'sais, fait que ça serait à la SQ, en fait, à prouver que ton pote, tu ne l'as pas acheté, t'sais, à la bonne place. Fait que la
Oui.
présomption d'innocence, c'est pas à nous à prouver à la SQ que le pote n'a pas été acheté à la SQDC. Ça serait à la SQ de prouver qu'on ne l'a pas acheté à la SQDC. Puis ça, c'est problématique, parce qu'ils prennent une position qui est contraire au fondement du système légal du Canada et du Québec. Ça me cause vraiment un inconfort. Puis si c'est ça la position que la SQ se donne par défaut, ils se mettent pas dans une bonne position pour la défendre en cour. Fait que c'est le genre d'affaires qu'on va certainement voir à un moment donné en avant des tribunaux. Puis si les tribunaux se respectent puis qu'ils respectent notre système légal, ça va être rejeté profondément et rapidement, parce que ça n'a pas de sens dans notre système légal de fonctionner de même. C'est pas de même supposé de marcher, là. On s'entend, là. T'es innocent. Fait que c'est à la SQ à se démerder, ça devrait pas être aux citoyens. On peut pas mettre cette responsabilité-là sur les citoyens.
Ouais, peut-être que la SQ parlait un peu à travers leur chapeau et qu'ils n'ont pas encore
Ouais.
de directive officielle, mais c'est ça qui est un peu difficile, je pense, pour les citoyens. C'est de savoir c'est quoi la loi applicable, c'est quoi le cadre
Ouais.
réglementaire, puis ils changent de jour en jour, l'information est assez contradictoire.
Moi,
Puis encore une fois, notre classe dirigeante fait n'importe quoi, puis c'est une improvisation.
je pense que la SQ, les services policiers, puis ça, c'était une des raisons que la gauche donnait pour supporter la légalisation du pot, c'est que souvent, la possession de potes était utilisée comme une raison valable pour faire des cherches dans les autos, faire des cherches personnelles et d'être capable de pousser une investigation sur le champ. Si on trouvait du pot dans une voiture, eh ben boy, on pouvait se donner à cœur de joie de tout faire les recherches qu'on voulait, parce que là, on avait une cause raisonnable pour faire des recherches. Mais là, en ce moment, ça, on vient de leur enlever ça. C'est parce que t'as du pot, ben t'as du pot. Continue ton chemin. Fait que là, ça va, faut qu'il, pour, en termes de policiers, ça va être plus difficile de justifier une cherche maintenant. Parce qu'on sait que c'est toujours contentieux, là, ce genre d'affaires-là. Fait que là, s'ils commencent déjà à faire ce genre d'annonce-là, que c'est que ça reste à nous de prouver que le pot a bien été acheté à la bonne place, ben là, ils se gardent encore le droit de faire des recherches parce que tu as du pot. Qui, selon moi, ne sera pas soutenu par la cour. Je peux pas juste pas voir que ça serait soutenu par la cour, c'est pas tenable.
Sinon, une petite parenthèse que j'ai trouvée fort intéressante. Il y avait un article, je crois, c'était à Radio-Canada ou dans la presse, je me souviens plus, sur le dynamisme des microbrasseries en région qui attirent des milliers d'emplois dans des endroits qui sont autrement en train de se dépeupler. Donc, puis si vous vous souvenez dans l'épisode qu'on a fait sur la SAQ, on mentionnait que jamais le marché de la microbrasserie serait développé au point où il est aujourd'hui si le gouvernement l'avait géré comme un monopole d'État, de la même façon qu'il gère les vins et les autres spiritueux. Et là, ce qui est intéressant, c'est moi, j'ai fait un... Je suis pas un consommateur de potes, je connais pas ça, mais je commençais à lire un peu, puis j'ai été surpris de voir à quel point il y avait de la variété des produits, il y avait des goûts différents, des effets différents, mm-hmm. et il semble avoir un marché aussi créatif et innovant que pour les microbrasseries dans les endroits où c'est légal d'en produire. Et je me dis, oui. si on avait opté pour un chemin similaire aux microbrasseries, si on avait laissé les fermes de potes travailler par eux-mêmes, développer des nouvelles industries, développer des nouveaux produits avec des applications médicales, qu'est-ce qu'on aurait dans 10-15 ans comme industrie? Est-ce qu'on serait pas les leaders au Canada, puis considérant à quel point c'est nouveau, on ne serait pas les leaders au monde. Il y aurait un potentiel de rayonner à l'échelle planétaire par notre innovation de la même façon qu'on le fait pour les microbrasseries. Je trouve ça dommage parce que l'article mentionnait à quel point l'innovation des jeunes entrepreneurs qui se lançaient dans les microbrasseries en région avait revitalisé des secteurs du Québec qui étaient en train de s'éteindre. Mm-hmm. Puis là, oups, ça a repris. Ça aurait été le fun qu'on puisse avoir ça pour une industrie naissante comme le pot. Je pense les gens aient pu à faire pousser ça dans des champs de blé-dingue.
C'est exactement ça. Je pense que ça aurait pu aider beaucoup de nos fermiers qui ont des difficultés. Ça pourrait générer toute une industrie. Mais à la place, on va faire ça tout croche. On va laisser le gouvernement faire la job avec les résultats qu'on voit aujourd'hui qui sont, jusqu'à maintenant, pas super excitants.
Un des documentaires, là, je vais peut-être vous mentionner, je trouve ça quand même intéressant. Moi, j'aime bien les systèmes en homéostasie. Ça veut dire que tous les intrants puis les extrants d'une chaîne d'opération sont utilisés pour faire quelque chose. En somme, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de déchets. Il y avait une ferme aux États-Unis, c'est une ferme porcine, puis eux produisent du pot, ils gardent les bulbes là, pour faire, au fond, les joints, puis ils servent des plantes elles-mêmes qui autrement seraient jetées, puis ils nourrissent des porcs avec ça. Mm-hmm.
Mais c'est... il y a des milliers d'usages pour le cannabis. Puis c'est ça un peu qui est dommage, parce que j'ai l'impression que maintenant, tu sais, jusqu'à quel point on va être capable de pousser ce marché-là? Est-ce qu'on va être capable de produire toutes sortes de choses? On a une opportunité. Là. Puis là, l'affaire, c'est que les autres nations, là, ils sont en train de nous regarder. Okay? On est peut-être les deuxièmes, mais on ne sera pas les derniers. Il va en avoir d'autres. Parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dire, oh mon Dieu, c'est un pays comme le Canada, qui a vraiment, à l'international, quand même une réputation assez enviable sur bien des niveaux, au niveau social, au niveau gouvernemental, légal, économique, nomme-les. Il y a beaucoup de pays qui nous envient. Puis là, ils vont dire, mais là, si ça marche là-bas, là, pourquoi nous, ça ne marcherait pas? Puis qu'est-ce qu'ils vont faire erreurs, ben, ils vont faire encore mieux que nous, parce qu'eux, ils vont apprendre de nos erreurs. Fait que ça va être à nous autres de s'ajuster. Puis je sais pas si les gouvernements provinciaux vont être assez rapides ou assez prévoyants ou même réagir assez rapidement pour ça, parce qu'on risque de manquer le bateau, puis pas à peu près.
C'est sûr que je ne m'attends pas à beaucoup d'innovation d'un monopole d'État qui emploie des employés syndiqués par la FTQ. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de produits novateurs qui sortent de là, des nouvelles applications. Comme je me renseigne un peu là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a plusieurs substances actives dans le cannabis. Puis il y a par exemple le THC qui est l'agent un peu buzzant. À côté, il y a des CBD qui, eux, sont plutôt un agent qui détend, mais qui ne provoque pas nécessairement une forme de psychose.
Il faut
fait que
pas
ça, c'est intéressant parce que la proportion des deux, ben, tu peux jouer là-dessus pour développer des produits qui sont plus destinés aux soins de santé plutôt qu'à la consommation récréative d'une drogue hallucinogène. Puis j'ai pas l'impression que l'innovation dans la recherche et développement pour trouver le sweet spot d'équilibre entre les substances hallucinogènes et les substances qui font juste, par exemple, provoquer une détente plus générale de l'organisme.
Mais
Je ne sais pas comment ça va venir du gouvernement, ça.
le CBD est reconnu comme étant, ça c'est beaucoup de gens et de médecins même qui le disent, qu'il y a des effets positifs pour les gens qui souffrent d'anxiété, par exemple. C'est supposément être une excellente façon de contrôler l'anxiété. Puis là, tu sais, je vais être clair, là, c'est pas une pilule magique. Tu sais, tu prends un comprimé de CBD, ça va t'aider avec ton anxiété, mais tu sais, c'est pas le end all and be all des médicaments contre l'anxiété non plus. Il y a des enfants qui prennent du CBD ou parce qu'ils ont de l'épilepsie extrême, puis que c'est le seul moyen que les parents ont trouvé pour contrôler les crises d'épilepsie. Là, c'est grave, là. On a des gens qui sont passés à être capables de pas fonctionner du tout, à être complètement fonctionnels. Il y a de la recherche à faire, il y a des théories à prouver. Puis là, tu sais, c'est à savoir si tu as vraiment le CBD qui fonctionne, si tu as autre chose, on ne le sait pas parce que la recherche n'est pas là pour le supporter. Mais il y a des possibilités incroyables. Donc, ça reste à voir, mais je pense que c'est un sujet qui va continuer à nous passionner, ou du moins de nous c'est un sujet qui va nous continuer à nous piquer notre curiosité. Mais on va voir. Je pense qu'on est juste dans les débuts. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer pour le futur.
J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire au bye-bye avec ça.
Bon, ben, merci à tous encore une fois d'être avec nous, à nous écouter. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. On vous rappelle, on est sur Facebook, Québécois Balado. On est aussi sur Internet, québécois.ca, notre merveilleux site web qui, maintenant, on a un certificat valide. Fait que vous pouvez arrêter de nous écrire pour nous dire que notre certificat est plus valide. On a aussi notre balado de diffusion qui est partout dans les bons balado-diffuseurs comme iTunes, Stitcher, Google Play, etc. On est vraiment partout. N'oubliez pas de nous donner des étoiles, des likes, des commentaires. Puis si vous nous faites un petit rating sur iTunes, ça nous aide beaucoup aussi. Fait que sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. À la semaine prochaine. Au revoir, Charles.
Salut, Gab.